Rectangle.
Avec le soutien de Savannah for Culture.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. Trouver l'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs,
c'est quoi vos trucs,
mon secret. En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être
ce que je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous
je vous laisse cogiter à ça.
Garniture à pizza.
Lancer des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'aimait. L'homme idéal. Ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Soundtrack of My Life. Nous écoutions L'homme idéal de Bertrand Burgala, tiré de son nouvel album Rêve Capital, sixième album de Bertrand Burgala, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors, vous connaissez le principe de ce podcast. Pendant 60 minutes, Bertrand Burgala va évoquer les chansons, les albums qui ont jalonné son parcours. Et quel parcours, musicien, compositeur, producteur, arrangeur, chanteur, auteur, patron du label Tricatel qu'il a fondé en 1995, et aujourd'hui ce nouvel album Rêve Capital qui sort sur Tricatel. 14 chansons, 18 sur l'édition bonus. Il est beaucoup question de rêve, il est beaucoup question de nuit, beaucoup question de vie. C'est un concept album, Bertrand?
C'est un concept, mais avec un concept pas trop restreint et pas trop dogmatique. Mais c'est un album où, tant qu'à assembler des morceaux, on essaie d'avoir un début, un milieu, une fin et des chansons qui se complètent.
C'est important pour vous de sortir encore un format album aujourd'hui quand on connaît les principes d'écoute sur les plateformes?
Ben oui, parce que le fait qu'on puisse écouter un morceau isolément, je trouve ça très bien. Mais tant qu'à faire des albums, Ben, je trouve que ça ne coûte pas plus cher qu'il y ait cette cohérence et qu'on puisse avoir ce plaisir de les écouter dans un certain ordre ou isolément.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à faire sur ce disque ?
C'était le plus difficile à faire, c'était de ne pas avoir l'impression de me répéter, de faire le précédent moins bien, de ne pas se décourager parce qu'il y a plein de circonstances qui font qu'à un moment on se dit mais pourquoi continuer encore à sortir des disques, effectivement. Donc quand on le fait et quand on le sort comme ça, après c'est une grande joie. Et d'être ici, ça en est une.
Alors, l'homme idéal, vous êtes l'homme idéal ?
Non, autrement, je n'aurais pas chanté. Si je le pensais, je n'irais pas ça. Je ferais de la fausse modestie à l'anglaise. Je ne suis pas l'homme idéal, pour qu'on dise le contraire.
Alors, beaucoup d'auteurs et d'auteures au féminin sur cet album. Quand vous les convoquez, il y a une demande, il y a un scénario, il y a un script, il y a des mots que vous voulez entendre dans les chansons. Comment ça se passe ?
Alors, il y a des propositions... spontané, il y a des amis ou parfois des personnes, enfin je reçois des textes, parfois j'ai fait la musique et la mélodie et je cherche un texte, parfois il y a des textes aussi qui viennent de conversations qu'on peut avoir, il y a un peu tout, il y a même dans cet album, il y a un texte, la chanson européenne, ça montre que les réseaux sociaux peuvent servir à quelque chose parce que j'avais vu sur la page Instagram d'une comédienne, Florence Loiret-Caille, elle avait publié un très beau poème, je ne savais pas de qui c'était, en fait c'était de sa maman. Et donc j'ai mis en musique une autre chanson du haut du 33e étage, ça a été écrit il y a 40 ans par un ami de l'époque, qui est toujours un ami, Yatanoel Yansané, il avait 17 ans, moi aussi, et voilà, il a fallu 40 ans pour que je mette en musique, donc c'est tout.
Alors dans le morceau qui a ouvert l'émission, L'homme idéal, il y a cette phrase, ici on fait de l'art, c'est autobiographique, vous faites de l'art, Bertrand Burgala.
Là, tout le texte de Chalumeau et de l'humour, jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici, on fait de l'art seulement. C'est vraiment du Chalumeau. Et il n'y a pas de... c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai vu une super chronique dans Femina Hebdo en France, qui est le supplément gratuit du dimanche, qui est avec toute la presse régionale, avec le journal du dimanche. Et à un moment, il citait les paroles de l'homme idéal. Il disait, d'ailleurs, comme le dit si bien Burgala, la vie est courte, donc savoure et profite. Évidemment, Chalumeau, il me fait jouer le rôle du mec sur sa couverture en fourrure, quoi. Qui dit « La vie est courte, savoure et profite, t'as une chance dingue d'être avec moi ». Et évidemment, je ne suis pas comme ça. Hein.
Mais
j'aimerais bien.
Il y a beaucoup d'autobiographiques dans vos morceaux.
Absolument pas.
Non.
Rien. Non, je dis ça parce qu'il y a des choses évidemment très personnelles, mais souvent ce qui paraît le plus personnel, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et je trouve qu'une chanson... elle doit être personnelle, mais elle doit être universelle. Si c'est raconté, c'est juste ces petits bobos ou ce qu'on pense, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de ce que moi je peux ressentir ou de ce que l'auteur ou l'autrice peut ressentir, c'est de se dire que d'autres peuvent aussi avoir les mêmes sentiments ou un peu différents ou l'interpréter différemment. Mais je ne vois pas... Je suis pas en train de raconter ma vie, même si je trouve que c'est important d'être sincère quand on fait un album.
Alors on va écouter les morceaux des autres et ça va peut-être un peu raconter votre vie. On va remonter dans le temps. Tout premier 45 tours acheté par Bertrand Burgala, il s'agit de OK Chicago, un instrumental du groupe Résonance. On l'écoute.
OK. We'll be right back.
Voilà, OK Chicago sur Soundtrack of My Life, un instrumental signé Pierre Bachelet et Matt Camison, sorti en 1973. Tout premier 45 tours, vous l'achetez pourquoi ? Pour le bruit de mitraillette au début du morceau
Et j'avais dû l'entendre quand même, mais je me souviens d'abord où j'ai acheté, c'était à Luchon, sur les Allées des Tignies, un endroit qui est maintenant à main, qui est toujours un tabac, mais même des tabacs vendaient des 45 tours à l'époque. Donc j'ai acheté là, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé ce morceau, mais je l'adorais. Après, quelques années après, c'est marrant parce que quand j'ai travaillé avec Étienne Charrier, eux aussi, ils adoraient les deux. C'était un groupe de requins de studio. C'était les gens qui faisaient les musiques et qui faisaient ça, Pierre Bachelet et d'autres. Ils avaient fait des groupes un peu fantômes. Il y avait Résonance, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Papers. Et Paperbox, des Papers, c'était un titre très bubblegum. Et ils avaient une fascination aussi pour ce morceau. Et je me rends compte que tout ce que j'aimais après de Philadelphia Sound, même une chanson à l'époque comme Les Villes de Solitude de Sardou, elle est très proche de ça en fait. C'est de la soul à la française de Requin Studio.
Ouais, c'est devenu un morceau culte. C'était en 73. Un an plus tard, en 74, le 22 juin exactement, gros choc émotionnel pour Bertrand Burgala. J'ai vu le ticket du concert dans l'ouvrage consacré à Tricatel. Vous assistez au concert de Pink Floyd à Colmar, au Parc des Expositions, mais vous avez quoi, 10 ans.
J'ai 10 ans et demi.
Qu'est-ce que vous foutez au concert de Pink Floyd à 10 ans et demi?
Ben, j'habitais Colmar, Pink Floyd passait, ils ont fait très peu de dates à ce moment-là, ils ne se trouvaient pas des salles aussi grandes. J'étais fan depuis Dark Side of the Moon et donc j'ai pu voir ça et je l'ai vu comme une espèce de rêve éveillé. Et j'ai retrouvé après des choses que je croyais avoir rêvé parce qu'il y a un blog qui s'appelle Sid Floyd où il y a quelqu'un qui devait être dans le même collège que moi mais qui devait être un peu plus grand qui a raconté exactement ce qui se passait ce jour-là, c'est-à-dire que tout le monde venait de toute l'Europe voir ce concert et on a vu à un moment un avion, c'était à côté de l'aérodrome, on a vu un avion se poser, on a dit c'est Pink Floyd et c'était eux en fait, ils s'étaient posés en avion, il y avait une Rolls qui les amenait là, je ne sais pas, c'était pas une Rolls, Ginny, la tournée était sponsorisée par Ginny, tout le monde d'ailleurs disait ils sont vendus, Ginny personne ne sait, c'était une boisson, un son étrange venu d'ailleurs, c'était truc, et c'est vrai que ce concert... Je peux le voir, il n'y a aucune image de ce concert, mais en revanche, il y a le son des gens enregistrés sur des cassettes, il y a le son sur YouTube.
Ouais, sur YouTube, ouais. On va écouter Pink Floyd, le morceau et l'album d'ailleurs, Obscured by Clouds, titre qui ouvre cet album, Obscured by Clouds, qui est en fait la BO du film La Vallée, réalisé par Barbet Schroeder, votre soundtrack préféré.
Oui, parce que, alors là, pareil, je me souviens exactement de l'endroit, j'étais en voiture à Colmar, alors je ne conduisais pas, hein, j'avais donc 10 ans, mais j'ai entendu à la radio ce morceau, je vois exactement où j'étais, près de la gare, près de la passerelle, et j'entends cette musique qui aujourd'hui encore est d'une modernité dingue. Il y a cette basse faite au Moog, là, c'est enregistré à Hérouville, ce truc très répétitif. Le reste de l'album n'a rien à voir, il y a un côté un peu folk. Je crois que j'ai même pas réécouté. Enfin, à chaque fois, j'ai mis l'aiguille. J'ai jamais entendu l'album en entier, le reste. J'ai même pas vu le film avec Calfon, Bulogier, Clémenti, parce que j'avais peur d'être déçu. C'était ce morceau. Et ce morceau, aujourd'hui, il me fait penser, 10 ans plus tard, il y a eu un morceau un peu comme ça, qui a très bien vieilli, que Benjamin, ici présent, doit bien connaître. C'est le morceau de Jaina X, Performance, Nice Mover. Et il y a ce côté-là, quand même, un peu lent, incroyable. Et ce morceau, ouais, je le trouve magnifique.
On va l'écouter, Obscured by Clouds de Pink Floyd. We'll be right back. On écoutait Obscure by Close de Pink Floyd, la BO du film La Vallée, sorti en 1972. On évoquait ce concert en 1974 de Pink Floyd, gros choc émotionnel. Et puis, en préparant cette émission, vous m'avez dit, Bertrand, il y a un album qui a complètement bouleversé votre vie. C'est l'album Sulk du groupe de Dundee, The Associates. On appelait ce groupe, c'était un peu déjà des dandies, la vague Cold Wave Arty à l'aube des 80s. Avec ce chanteur Billy McKenzie, c'était quoi le son, la voix, l'atmosphère?
Ça fait partie de ces disques un peu intrigants, presque un peu dans un autre genre comme le Soft Machine 2, c'est-à-dire un peu, on ne comprend pas tout bien au début et on se dit mais... C'est étrange, le son était très étrange pour l'époque. C'est un mélange de machines, il y avait cette voix un peu de diva de Billy McKenzie. Il y avait cette Martha Ladley de Martha and the Muffins, qui était une fille superbe, qu'on voit jouer derrière lui. Il y avait une production hyper bizarre. Quand on écoute Club Country, il y a un autre morceau comme ça... j'ai oublié le nom du morceau. Enfin, tout l'album est étrange. Et je l'ai écouté. Parce qu'il était un peu mystérieux, cet album. Il ne ressemblait pas aux productions de l'époque. Et vraiment, oui, ça m'a beaucoup marqué. Et je regrette de ne pas avoir connu Billy McKenzie. J'ai entendu des anecdotes, mais tordantes. Parce qu'il s'est suicidé. Je me souviens d'un truc dans les années 90... que je trouve merveilleux, c'est que quand il a été viré, je crois que c'était de Sony à l'époque, le mec lui dit de Sony qui lui rend le contrat, et Billy McKenzie lui dit « Bon, bah ok, mais bah, est-ce que je peux quand même prendre un taxi pour rentrer ?» Et le mec, trop content de s'en débarrasser, c'était à l'époque où les maisons de disques avaient encore des artistes, avaient des comptes comme ça pour les taxis, pour aller faire la promo. Je lui dis oui, bien sûr. Et il est rentré en Écosse avec le taxi.
À Dundee.
De Londres à Dundee en black cab. Et je trouvais que c'était... Enfin, ça en dit beaucoup.
Une grande voix, on va l'écouter. Ouais. Billy McKenzie au chant sur ce morceau. Club Country, extrait du deuxième album des Associates, Seul, qui était sorti en 1982.
Think you've learned Thank you.
Bertrand Burgala est notre invité dans Soundtrack of My Life. Il nous a replongé dans les années 80 avec The Associates. Et là, nous venons d'écouter une rareté. Le groupe s'appelle Janus. C'était un groupe de rock progressif italien. La chanson « Manifestazione non autorizzata », « Manifestation non autorisée », c'est un groupe assez engagé. Comment oui, vous avez découvert ce morceau?
La question, c'était une musique là-dessus.
Qui vous rappelle votre côté rebelle?
Oui, et ben, j'ai pensé tout de suite à celle-là, parce que c'était un groupe activiste.
Anticommuniste, on peut le dire.
Anticommuniste. Et j'ai trouvé les paroles étaient superbes. Et le truc était, comme souvent ces trucs-là, les Italiens de cette mouvance-là, souvent aimaient beaucoup, bizarrement, le rock progressif. Ils adoraient Tolkien, Genesis. Ils étaient assez babas, en fait. Ils avaient les cheveux longs et tout. Et Janus, ils avaient ce truc presque un peu boogie qui était marrant. Et le truc le plus fou, c'est que le chanteur est mort pendant une manif après. C'était l'époque des années de plomb en Italie, avec une grande violence. Et donc, « Manifestazione non autorizzata », c'était assez bien vu. Et j'aime bien ce morceau. Je trouve qu'il est assez fort. Quand
il est assez rare, mais alors sur YouTube, il y a plusieurs reprises. Donc, c'est un morceau qui a quand même bien existé.
Je ne me rends pas compte. Ouais. Mais il y a eu un underground comme ça. Pas tout, avec de tout. Avec des chansons, il y a un mec Mancinelli qui avait fait une très belle chanson qui s'appelait Generazione, comment ça. Enfin, il y a eu des choses qui étaient assez fines, et en particulier en Italie, et qui vivaient quand même à l'époque une période de tension et de violence qui était terrible, et avec des gens qui en étaient parfois les victimes et qui étaient des gens pas toujours inintéressants. Et voilà, et je pense à ça parce que j'ai connu un peu la queue de cette période et cette violence-là, et je pense au chanteur de Janus, et je trouve que c'est un morceau plutôt pas mal.
Alors, on va quitter les années de plomb, on va faire un bond dans le temps, on arrive en 1995. Alors, pour resituer, le grunge, c'est déjà fini en 95, ou c'est déjà bien récupéré par le système. On baigne en plein de Britpop, hein, la guerre Oasis Blur en Angleterre. Et à Paris, en France, vous fondez Tricatel. Tricatel, c'est aujourd'hui de plus de 300 références. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Qu'est-ce qui relie finalement toutes les références, toutes les signatures sur Tricatel, selon vous, Bertrand?
Bon, en tout cas, moi, ce que je cherche à chaque fois, c'est d'abord, je réagis pas du tout en chef de produit ou en marketing, mais je réagis en auditeur. Je me dis qu'est-ce qu'on a envie d'entendre, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre qu'on n'a pas l'impression d'entendre exactement de la même façon ailleurs. Et je pense, en étant chez Radio Rectangle, je suis sûr que Benjamin a exactement la même attitude ici, et on est là. On est des structures artisanales qui sont là pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire ou ne veulent pas faire. Et je ne cherche pas du tout à ce qu'il y ait une ressemblance entre chaque projet et chaque artiste, au contraire. Et c'est, enfin voilà, je suis très heureux qu'on soit là maintenant depuis plus de 25 ans et qu'on continue et qu'on soit plutôt en forme. Pour moi, c'est une grande victoire.
Alors Tricatel, c'est les albums, les productions de Valérie Lemercier, April Marche, Michel Houellebecq, hein, ça c'est un disque culte de Tricatel, Christophe Chazolles, les albums de Bertrand Burgala, bien sûr. Dans l'ouvrage, hein, Tricatel Universaliste, qui retrace cette aventure, il y a une interview accordée c'est Philippe Manœuvre qui fait l'interview d'ailleurs au début du bouquin, et il insiste beaucoup sur le fait, mais pourquoi vous fondez ce label? Il n'y a aucune raison mercantiliste finalement là-dedans.
Je le fais parce que je ne vois pas d'autre moyen de sortir certaines choses. Et c'est vrai qu'un morceau comme Ocyclade, par exemple, je me souviens très bien quand j'ai commencé à le faire. Je me souviens de le faire à l'époque, j'enregistrais beaucoup à Bruxelles. Et j'avais commencé à le faire. Je me souviens de le faire écouter vers 91-92. Je ne sais plus, à Samy, Bienbach et ça. Et je voyais que même quelqu'un comme Samy, quelqu'un qui a une super oreille et tout, et à l'époque, ils étaient tous dans la house ou dans l'ambiance ou des trucs, et ce n'était pas exactement ce truc-là. Donc,
j'arrivais pas à trouver de personnes, y compris des personnes que j'aimais bien, qui étaient sensibles à des choses comme ça. Et finalement, quand j'ai monté le label, je me suis d'abord occupé de sortir les disques des autres. Et mon album traînait. Et ce morceau, Cyclades, il a 30 ans maintenant, en fait, quasiment.
Voilà, alors on va écouter, hein, vous évoquez le morceau, c'est Cyclades électronique, c'est extrait du premier album solo de Bertrand Burgala, The Sound of Music, son avec plein de S, je ne les ai pas comptés. On écoute ce morceau, c'est le morceau, vous m'avez dit, que vous feriez écouter à ceux qui ne vous connaissent pas encore, Cyclades électronique. Cyclades électronique, extrait du premier album de Bertrand Burgala qui était paru en 2000 aux éditions et sur Tricatel. Burgala, Bertrand, quand on tape ces deux noms sur Wikipédia, la première phrase de Wikipédia, c'est, on dit Bertrand Burgala, ce nom se retrouve sur plus de 200 albums comme arrangeur, compositeur, producteur, c'est vrai ? Faut croire peut-être. Wikipédia.
Je sais pas s'il faut croire Wikipédia. Moi, je n'ai jamais lu ma fiche Wikipédia. Parce qu'en plus, on serait tenté de la corriger, d'analyser une exactitude. Et je me dis, bon, il faut laisser. Donc, je ne la lis pas. Mais je l'entends par bribes. Parfois, les gens me disent, ah ouais, fils de préfet. Par exemple, mon père est mort il y a 38 ans. je me dis, j'aimerais bien, enfin, ça, je n'ai pas été longtemps, un truc, mais il y a des inexactitudes, mais ce n'est pas grave. Mais des disques, en fait, j'ai dû en faire en fait un peu plus si on prend tous les petits bouts par-ci, par-là, ça va vite. Mais à l'époque, quand j'ai commencé le label, j'arrivais pas à faire des disques. Je me disais, mais quand j'avais 25 ans, je me disais, mais je vais mourir un jour et j'aurais jamais. Ça foirait à chaque fois. Donc ça a peut-être donné une forme de boulimie. Et c'est vrai que pendant longtemps, chaque fois qu'on me sollicitait pour un truc, je disais oui. Aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire oui. Après. Mais je trouve parce que c'est bien quand on peut d'essayer de faire des expériences. Et souvent, il y a des projets, ils s'annoncent magnifiques et puis c'est une catastrophe. Et il y a d'autres trucs où on se dit, oh, c'est un peu foireux ce truc-là. Et puis on fait des rencontres incroyables. Donc là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il y a un peu plus d'un an, j'avais été contacté pour une BO. Il y avait tout mal. Il n'y avait pas de temps, pas d'argent. La productrice était nulle et tout. Et ben, je me suis super bien entendu avec le réalisateur. On va faire d'autres choses ensemble. C'est affreux parce que du coup, j'ai fait une BO, mais avec des moyens dérisoires. Mais si je n'avais pas fait, je n'aurais peut-être pas rencontré Marc Fitoussi, qui est un réalisateur super.
Alors, il y a eu des collaborations avec Christophe Willem, avec Dépêche Mode.
Ça, c'était des remixes, Dépêche
Mode. Des remixes. Et alors, vous avez choisi une collaboration, c'est Supergrass. Le morceau, c'est Every Time, un morceau assez rare. Hein. C'était une face B d'un single, Rush Our Soul, paru en 2003. Quelle était votre collaboration avec Supergrass?
J'avais fait les arrangements dessus et ça commence comme on dirait un truc de Jeff Beck un peu. Et puis après, il y a les cordes qui arrivent. Au bout d'un moment, j'ai complètement perdu. Dans les années 90, j'avais travaillé aussi avec Danny de Supergrass. Il avait fait un autre groupe qui s'appelait Lodger. J'avais produit 3 titres. J'avais des choses comme ça. J'avais fait un morceau pour PG Proby pour un album fait avec les gens de Saint-Étienne et Marc Almond. J'avais fait une reprise de Percy Sledge, Rainbow Road, qui est un morceau que j'adore. Enfin, j'adore l'original, mais je suis très fier de la version que j'avais fait pour PG Proby. Mais j'ai pas eu tant d'occasions que ça après, parce que dès que j'ai monté mon label, j'ai un peu perdu la main à l'étranger. Quand on n'est plus sur le marché sur place, les gens pensent plus à vous. Mais j'ai un bon souvenir de ce truc de Supergrass. Et c'est vrai, c'était vraiment une face B. Et puis, je trouvais que ces mecs, ils avaient la classe. C'était bien, ce truc-là.
On va écouter Supergrass Every Time.
Thank you.
Supergrass dans Soundtrack of My Life, Every Time, chanson arrangée, les cordes qu'on entend, c'était Bertrand Burgala. Alors comme vous Bertrand, on aime le grand écart à Radio Rectangle et on va donc parler de hard rock bien 70s, de Deep Purple par exemple, puisque leur classique Machinette de 1972 fait partie de vos plaisirs, des plaisirs coupables.
Oh non, pas coupables,
ah, mais, voilà. Assumé.
Assumé, mais... Je ne sais pas, actuellement, quand, quand j'ai du mal à dormir, je regarde sur YouTube des vidéos de Deep Purple. Et ça marche, enfin, ça ne m'endort pas, hein, mais ça m'épate parce que je me rends compte à quel point ce groupe avait une classe mais incroyable. Ian Paice, le batteur, était insensé. C'était des musiciens incroyables.
John Lord, hein,
John
clavier,
Lord, ouais. Blackmore. Ils étaient fous, c'était incroyable. Et ce disque, moi, j'écoutais. J'aimais pas trop le rock électrique. Mais ce disque me rendait dingue, en particulier ce morceau et Space Trucking. Mais Highway Star, je trouve ce truc fou. Toutes les versions qu'il y a en concert ou en télé sur YouTube, elles sont folles. Aujourd'hui, il y a des vidéos de Blackmore qui sont assez marrantes. Ils ressemblent un peu à Kadhafi maintenant. Je sais pas, ils ont peut-être eu le même chirurgien ou un truc. Il a l'air d'être avec une fille qui doit avoir 20 ans. Très étrange. Un peu dingo, mais quel musicien incroyable, incroyable.
Et c'est un classique des classiques. Voilà, cet album Machinette, il abritait Smoke on the Water, hein, qui est sans doute le morceau le plus joué au grand désespoir des vendeurs dans les magasins de guitare. Mais on va écouter Highway Star, qui est pas mal non plus, avec une très belle partie au clavier de John Lord.
Yeah, she turns me on, all right, oh.
Deep Purple, Highway Star sur Radio Rectangle, un choix de notre invité Bertrand Burgala, qui a déroulé pour nous le soundtrack de sa vie. On rappelle que vous venez de sortir votre nouvel album solo, Rêve Capital. Il y a une tournée qui est prévue ou pas?
Ou pas. Non, il n'y a pas de tournée parce qu'il y a 2 ans, j'avais un tourneur qui était pas très sympathique avec moi et qui me faisait bien comprendre que j'étais un has-been, enfin, ou un never-been. Et il nous trouvait une date par an, en général foireuse, enfin bon. Et donc j'avais un peu lâché l'affaire. Et j'adorerais refaire des concerts. Il faudrait qu'on ait plus de 3 dates et tout ça, qu'on ait le temps de répéter. Et je pense que là, il va y avoir une telle avalanche de concerts. Et moi, n'étant ni dans la catégorie gros vendeur, ni dans la catégorie petit jeune qui monte, sur lesquels tout le monde s'excite, je vais un peu laisser passer l'orage, et puis on verra après. J'adorerais qu'on tourne, mais même quand j'avais fait l'album précédent, on n'avait même pas pu jouer, on n'avait trouvé personne pour nous faire jouer à Bruxelles. Donc à un moment, on se dit... Bah tant pis, c'est pas grave.
Ça vous manque pas, le live,
si,
la scène?
Ça me manque, mais il y a un moment, je peux rien faire, moi. Je joue, j'adore jouer, on a toujours une super équipe pour jouer. Si ça intéresse pas les promoteurs, bah tant pis. Mais je peux pas louer les salles, quoi. Je vais pas faire comme Dieudonné. Je vais pas louer des salles sous un faux nom et faire venir des gens, parce qu'il y aura pas assez de public, de toute façon. Donc c'est pas le... Non.
Il y a eu des grands souvenirs en Belgique, des concerts de Bertrand Gala, avec Alice Dragon notamment.
Ouais, on avait fait des trucs avec Champfort aussi, ouais. Grâce à Paul-Henri Wauters,
aux Nuits Botaniques.
On avait fait ça au Cirque Royal, on a eu plein de trucs. Et souvent d'ailleurs les meilleurs concerts, le dernier concert qu'on avait fait, c'était à Besançon, donc en mai 1999, et il y avait 20 personnes dans la salle. Enfin, sur la scène, du coup, ils étaient venus avec nous. C'était un super concert. Donc, c'est pas une question de nombre de personnes. Mais il y a un moment où... Moi, je suis tellement heureux déjà là, de sortir l'album, qu'il soit si apprécié et tout ça. Après, on verra. Mais je suis conscient, en même temps, de... Je suis pas un remplisseur de salle. Et là, nos amis du spectacle, ils ont quand même bien morflé. Donc on va peut-être laisser passer d'abord ceux qui rongent leur frein depuis un an, là, et qu'il faut qu'ils aillent tous jouer.
On va se quitter en musique. Un tout grand merci pour votre temps, merci. Et vos choix. Alors, on avait posé la question, quelle chanson devez-vous écouter pour vous rappeler que vous faites le plus beau métier du monde? Vous avez répondu Gilberto Sullivan et aussi Something About You de Duke Ellington. Le Duke, c'est l'icône absolue?
Oui, c'est en fait... Je connaissais Duke Ellington sans connaître et Standard et tout ça, quoi. Et puis il y a une quinzaine d'années, j'avais lu les mémoires de Claude Bolling, qui paraît être certains de ses morceaux un peu lents, un peu atmosphériques. Et là, j'ai fait des découvertes incroyables, dont c'est Something About Believing. Et c'est en fait une espèce de messe qu'il a fait, il en a fait plusieurs. C'est tiré d'un album qui s'appelle Second Sacred Concert. Et c'est somptueux, je trouve. Pour moi, c'est la musique de la joie. C'est pour ça, quand on m'a demandé qu'est-ce qui donne envie ou pourquoi on est heureux de faire de la musique, c'est pour faire des choses aussi belles que ce qu'a fait là Duke Ellington. Et je trouve que la dernière partie de la vie de Duke Ellington, pour moi, musicalement, en tout cas, c'est ce qui me touche le plus dans ce qu'il a fait.
Merci Bertrand Gala. Merci. Plein de bonnes choses à vous et au label Tricatel.
Et vive Radio Rectangle.
Vive Radio Rectangle. Merci, Soundtrack of My Life.
Vive Fuxville.
Voilà. Merci. Et on va se quitter avec le Duke. Thank you.
Eliminates the second and the third.